Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
Éric Vuillard, un écrivain, et le 14 juillet.
L'attaque de la Bastille ne fut nullement raisonnable. Ce fut un acte de foi. Personne ne proposa, mais tous crurent et tous agirent. Le long des rues, des quais, des ponts, des boulevards, la foule criait à la foule « À la Bastille, à la Bastille !» Et dans le tocsin qui sonnait, tous entendaient « À la Bastille !»
Éric Vuillard est un lecteur de Michelet, dont on vient d'entendre un extrait de son Histoire de la Révolution. C'est depuis la foule sans nom, Michelet disait le peuple, qu'il faut envisager l'humanité, enlever à César ce qui ne lui revient pas et le donner à Michel, Victor, Louise ou Marion. Et s'ils n'ont pas laissé assez de traces, tenter néanmoins d'entrer dans leur corps. De grands événements, cependant, rompent parfois le silence de la foule. On ne parlera pas ici de la vie d'Éric Vuillard, mais juste cette image qui lui aurait été transmise par sa mère. Il avait seulement quelques jours, et celle-ci le porta sur le balcon pour qu'il voie son père sur une barricade. C'était à Lyon, en mai 68. Le 14 juillet est une autre des dates de naissance d'Éric Vuillard. Pas la fête de la Fédération de 1790, à laquelle pensait très fort la Troisième République naissante quand elle institua la fête nationale. Éric Vuillard aurait tendance à considérer la négociation comme une maladie. Non, le 14 juillet 1789. C'est fou, dit-il, ce que la France alors comptait de jeunes et Paris d'intrépides. À 100 000, peut-être, à la recherche d'armes, ils se jetèrent sur la Bastille, ce monstre à 8 tours, qui faisait tellement d'ombre que les immeubles autour paraissaient des cabanes. C'est fou ce que ces jours, il y eut de bègues qui devenaient des orateurs. Éric Vuillard ici pense à Camille Desmoulins. Mais ils sont sûrement à lui quand il ajoute « C'est fou le nombre de cancres qui sont devenus des écrivains ». Le 14 juillet, l'événement a donné corps au peuple et à beaucoup de ses membres. Il a permis au moins l'espace d'un instant de changer de corps.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Éric Vuillard, bonjour.
Bonjour.
Après nombre de livres nourris par l'histoire, publiés, c'est maintenant une tradition chez vous, aux éditions Actes Sud, celui-ci sur le 14 juillet. Bon, alors, j'ai lu dans le Matricule des Anges qui vous a consacré un énorme dossier que vous avanciez avec, devant vous, une armure. Donc, je ne pose pas de questions sur votre vie quand même. Si, cette formule-là, c'est fou le nombre de cancres qui sont devenus écrivains. Vous vous l'appliquez à vous-même, non ?
Oui, sans doute, on se construit tous, en tout cas, une fable. J'ai le souvenir que la salle de classe me paraissait un peu close, un peu petite, et que j'ai toujours eu l'envie d'être dehors, en fait, dans la rue, à l'extérieur, si bien qu'au fond, devenir écrivain, c'était la possibilité, sans doute, de passer les matinées à lire au café, d'écrire, certains rapports peut-être à la liberté, je ne sais pas.
Vous identifiez parfois Rousseau, qui, venu du diable Vauvert, tout d'un coup, et couronné par l'Académie des sciences et des belles lettres de Dijon.
Je ne sais pas si je m'identifie à Rousseau, mais en tout cas, je pense que Rousseau est en effet une date capitale, c'est-à-dire il incarne sans doute la première véritable figure d'écrivain et non plus d'homme de lettres, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour les autres.
Et je ne vais pas dire que vous identifiez à Rimbaud, parce que vous allez me contredire, mais à la littérature, vous êtes venu par une certaine errance et par la poésie.
Oui, parce que comme j'ai quitté l'école assez tôt, enfin je la requittais régulièrement jusqu'en terminale et que je me suis beaucoup promené sur les routes de France et d'Espagne, évidemment je pouvais pas emporter grand chose avec moi, mais les œuvres complètes de Villon ou de Rimbaud, ça pèse peu lourd, et le fait d'écrire de la poésie aussi, c'est une toute petite forme, légère, si bien quand pendant longtemps, au fond, on n'a pas de lieu où écrire, la narration ou le roman sont des formes impossibles, et la poésie en revanche s'adapte très bien.
Le roman, ça permet un abandon de plus longue durée aux mots.
Oui, c'est aussi un certain rapport au sens, au fond, puisque précisément dans l'abandon aux mots, qui est le propre de la poésie, quelque chose du sens au long cours, en tout cas, s'évanouit, s'efface pour autre chose. Alors que le récit, la forme plus longue, la prose, elle, permet de trancher, permet d'avoir une guise un peu plus lointaine.
Mais alors, quel plaisir d'inventer des mots, vous en inventez assez souvent, d'ailleurs. Je lis que les troupes royales, quand elles cernent Paris, cherchent à achaudir les faubourgs.
Ben, je finis par plus bien savoir les mots que j'invente. Ou l'autre fois, on me demandait d'où venait crapoter sa chopine, si c'était une expression du 18e. Et j'avoue que j'ai hésité un moment. Et c'est ensuite, je crois, en sortant d'une émission que je me suis souvenu que ça venait tout simplement du crapoter qui, dans l'enfance, est appliqué au fait de ne pas avaler la fumée des cigarettes.
Puis l'important, c'est dans un style qu'il y ait des changements de registre.
Oui, absolument. Ben, je crois que nous parlons tous, au fond, plusieurs langues. Enfin, je parle évidemment la langue de ma génération. Chaque génération invente, et puis selon la région où elle est, son argot, et puis on hérite de l'argot de ses parents aussi, puis se sédimente là-dedans, lorsqu'on est lecteur, tout un tas de mots attrapés de ci, de là, dans les livres.
Cependant, l'époque vous requiert de plus en plus, et vous faites maintenant régulièrement des livres nourris par l'histoire, la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique, les spectacles de Buffalo Bill qui embauchait des Indiens en Amérique, le début de la guerre de 1914 et maintenant 1789. Il y a une belle image que vous utilisez, qui était chère au grand Louis Massignon, la légende des sept dormants d'Éphèse. Et voilà qu'en 250, sept soldats romains, qui étaient considérés comme séditieux parce qu'ils avaient partagé leurs biens au nom du christianisme, sont emmurés dans une grotte et on les retrouve en 418. Ils étaient endormis et ils reprennent leur vie. Mais c'est le maçon qui les délivre en 418, qui les réveille, qui leur donne leur rythme. C'est le présent qui réveille le passé. C'est l'époque qui requiert la présence des dormants d'Éphèse.
Oui, alors c'est d'abord une, effectivement, comme vous le dites, une parabole de l'égalité. Et puis c'est une image aussi de l'histoire, c'est-à-dire de son côté irrégulier, enfin d'une certaine histoire, celle des insurrections, c'est-à-dire on les croit endormis et puis elles reviennent. Et c'est aussi effectivement un rapport du présent au passé. C'est à ça que parfois les petites fables peuvent servir. Plusieurs sens y en chassent.
Les gens ont mis le feu aux archives de la Bastille. On en parlera tout à l'heure. Certaines ont été préservées, par exemple par Beaumarchais, d'autres était à la bibliothèque de l'Arsenal.
Enfin, préservé, il les avait d'abord fauchés, si je me souviens bien.
Et en 1840, à peu près, il y a un jeune type qui est conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal. Il fait des travaux dans sa cuisine, il soulève les carrelages, et il y a les archives, une bonne partie des archives de la Bastille. Vous vous intéressez, vous, aux archives? Arlette Farge, avec qui vous avez fait un entretien, évoquait le moment où on dénoue les liasses d'archives, et puis les noms des gens qui sont contenus là vous sautent à la figure.
Oui, tout à fait, c'est très émouvant, les archives. Alors au départ, le premier moment, quand on n'est pas historien, ou quand on l'est d'ailleurs, au début de sa carrière, est un peu curieux. C'est-à-dire, c'est très étrange qu'avec une simple carte qu'on obtient en quelques minutes, on puisse comme ça consulter des documents très anciens sur de très beaux papiers, et puis on se sent un peu intimidé, maladroit, et puis après il y a le problème de déchiffrer aussi, l'écriture n'est pas la même du tout, c'est l'écriture de quelqu'un, c'est toujours compliqué aussi à déchiffrer, et puis dans le cadre des archives du Châtelet, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, il y a des abréviations juridiques, judiciaires, donc qui compliquent. Mais une fois qu'on est entré là-dedans, il y a quelque chose de tout à fait touchant. Par exemple, lorsqu'on tombe, je pense à un procès-verbal auquel j'ai adossé un chapitre de mon récit, sur le récit d'une femme venant pour identifier sur procès-verbal le cadavre de son mari. Et quand ce second procès-verbal, lui, est écrit dans la marge, rapidement, alors qu'il touche à quelque chose pour elle de profondément bouleversant.
Les premiers morts, les plus nombreux, parmi les journées révolutionnaires, peut-être, c'est au mois d'avril, l'émeute contre le fabricant de papier peint Réveillon. C'est là que vous situez ce chapitre. Il s'agit d'identifier les gens qui sont tombés sur le pavé. Le printemps est extrêmement agité, pas seulement à Paris d'ailleurs. Le pays a délégué les députés des États généraux qui vont se constituer à Versailles en assemblée. Mais voici que le 12 juillet, les Parisiens apprennent avec stupeur le renvoi de Necker, le ministre numéro 1, c'est signe pour eux que le roi veut fermer les espoirs levés par la constitution de l'Assemblée. Et le lendemain...
Il confirmait que l'on ait pillé des armureries hier soir?
Oui, on a pillé Marcel Arlot, arquebusier rue Grenta, Forbet, ceinturonnier, Pont-Saint-Michel, Briet, fourbisseur également, Pont-Saint-Michel, Brun, armurier, la veuve Leroux, d'autres encore. On a pillé les magasins de l'Octroi... Et on a mis le feu aux barrières. À certains endroits, on a fait main basse sur le vin.
Moi qui vous parle, François Desnaux, le cuisinier, je suis allé à l'hôtel de ville dans l'après-midi du 13. Un grand nombre de citoyens se présentaient sans cesse, réclamant des armes et des munitions. Furieux, toute une partie de ceux qui étaient à l'hôtel de ville s'est portée vers leur garde-meuble, d'où elle a emporté toutes les armes. Malheureusement, c'était surtout des armes du passé. Il y avait une épée qui avait appartenu à Henri IV, un petit canon en argent, offert à Louis XIV par le roi de Siam. Ce n'est pas exactement ce que le peuple cherchait.
Je ne veux pas dire du mal de la radio de 1989, tribune de l'histoire, mais quand on vous lit, il y a plus de mouvement, vous voyez. C'est plus facile, finalement, avec la littérature, de restituer les faits de cette foule.
Sans doute que la littérature a des moyens qui lui sont propres. Je ne sais pas si c'est plus facile que la radio, mais je pense qu'en effet, entre la voix et le texte, le rapport aux images, la façon dont ça les suscite et de toutes les manières différents après, pour il y a plusieurs façons d'écrire la foule. En tout cas, j'espère que dans le livre, il me semble qu'il y en a plusieurs. Il y a par exemple à un moment une sorte de pluie de noms, une sorte d'avalanche comme ça de noms. Là, c'est une foule, c'est le 1+1+1+1 de la foule.
Il y a Ridel, il y a le lièvre et le loup, il y a têtu et tordu. C'est très important, le nom.
Oui, je crois, parce que, à l'inverse de ce qu'on a longtemps pensé, le nom propre, le nom de famille, n'est pas seulement un mot qui désigne une personne et qui est dénué de signification. On voit bien qu'autour des noms, il y a toute une rêverie, au fond, qui leur est propre, une vapeur de sens.
Cependant, les historiens, j'ai noté que vous commenciez à devenir historien, vous en avez fait l'aveu, peuvent vous faire un reproche, vous abusez du « on ». Alors vous savez que les historiens n'aiment pas le « on », ils aiment bien les forces sociales qu'il faut désigner par leur caractère propre. On pille la belle demeure, là vous évoquez l'émeute réveillon du mois d'avril. On arrache les baldaquins, on abat les arbres, on élève 3 bûchers dans le jardin, et c'est toujours « on ».
C'est aussi parce qu'on écrit une langue et on en parle une autre. Et il se trouve que le « on » est d'un usage plutôt oral, on revient tout à l'heure. Donc c'est une manière sans doute, pour raconter une émeute, de faire entrer pour une part la langue orale. Mais aussi, c'est un pronom indéterminé. Le « nous », c'est une petite coterie au fond, c'est un groupe en tout cas. Alors que le « on » est ouvert au fond et il permet de faire ce que Sartre appelait peut-être « embarquer ».
Alors vous utilisez aussi le contre-champ, c'est que vous avez fait un scénario de cinéma, réalisé un film, Matteo Falcone. Le contre-champ, c'est avec Versailles, à 20 km. Il y a, jolie formule pour désigner Versailles et le palais, une mandorle. C'est ce qu'on voit autour du Christ sur les façades des cathédrales. Une mandorle qui abrite le pouvoir. Et puis, pire encore, à vos yeux, il y a le hameau de la reine qui ressemble un petit peu au magazine de week-end, vous savez, qu'on va lire là, ce vendredi et ce samedi, enfin que certains d'entre nous vont lire avec les magazines attrape-pub, où tout le monde est beau, avec des cosmétiques, où tout le monde va au spa le dimanche.
Oui, c'est d'ailleurs la version que la fille de Coppola a donnée, enfin, non, de Marie-Antoinette. C'est donc, d'une certaine manière, en tout cas, comment dire, il y a des structures qui persistent, au fond, dans le temps, il y a des asymétries qui persistent. Et en effet, quand on lit parfois, sous la plume d'historien, que la cour, finalement, ne cornaquait que peu le budget de l'État, etc., et que l'on nous donne après du 5 à du 10%, c'est au fond énorme. Enfin, c'est davantage qu'un ministère régalien, donc c'est considérable. Et de surcroît, pourquoi ? C'est-à-dire...
J'aime bien quand vous parlez comme Necker, qui pourtant est une de vos têtes de Turc.
Oui, c'est-à-dire que Necker, c'est une personnalité intéressante à ce moment-là, parce que d'abord, effectivement, son renvoi signifie non pas, comme on le dit parfois, que puisque le peuple, à ce moment-là, s'inquiète que le peuple aimait Necker, simplement que ça signifie qu'on revient à une politique non plus libérale comme lui, mais une politique plus autoritaire. Et c'est cela que le peuple craignait. Mais Necker, qui était donc banquier suisse, qui avait gagné donc sa vie par des spéculations, qui ensuite devient intendant des finances, qui continue d'avoir des parts dans une banque suisse, alors qu'il émet des bons du trésor qui vont être rachetés par diverses banques, dont celle-ci. Évidemment, ça nous rappelle deux choses. C'est un personnage du futur, Necker.
Marie-Antoinette aussi, c'est un personnage du futur, tellement elle est représentée. Alors, on sait qu'elle aimait non seulement le hameau de la reine et y cueillir des capucines, mais aller à l'opéra pour écouter, par exemple, Iphigénie en tauride. Gluck, ici, c'est la version de Carlo Maria Giulini avec l'ensemble vocal de Paris et l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.
Thank you.
Marche de l'Histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Le 14 juillet, selon Éric Vuillard, qui publie un livre aux éditions Actes Sud, on dormait pas beaucoup à Paris, dites-vous. Il faisait fort chaud et chacun était à la recherche d'un autre corps. C'est pas que ce soit des scènes sexuelles que vous multipliez.
Oui, c'est-à-dire que, au fond, évidemment, le 14 juillet n'est pas arrivé comme ça. Il y a toute il appartient à toute une séquence insurrectionnelle où les gens sont dans la rue, parlent, se retrouvent au cabaret. Et c'est surtout donc un peuple très jeune, au fond, qui participe à tout ça. Et donc les nuits sont longues, les bourgeois se barricadent chez eux et les jeunes gens boivent.
Mais on est à la recherche d'armes. C'est peut-être d'ailleurs ça qu'on cherche d'abord à la Bastille pour attaquer peut-être un autre lieu après. Sauf que la Bastille, c'est un monstre dans la capitale et qui signifie le pouvoir unique du roi et auquel se sont attaqués les philosophes, les libellistes. Comment l'avez-vous décrit, ce monstre à huit tours ?
Je l'ai décrit comme une sorte de dieu d'Égypte, au fond, puisqu'il m'est apparu...
Voici le temple d'Horus, il y a un chapitre qui commence comme ça.
Absolument, ouais. il m'est apparu qu'au fond, et puis sans doute par un goût qui vient d'Hugo, il m'est apparu qu'entre la ville moderne qu'est Paris à ce moment-là, c'est-à-dire une façon de vivre tout à coup véritablement neuve, c'est-à-dire de baigner sans cesse dans une foule qu'on ne connaît pas forcément, d'être anonyme, donc des types de rapports sociaux qui diffèrent tout à fait des rapports anciens, et notamment des rapports humains et de famille qu'on peut avoir dans les campagnes, cet appareil militaire qui est au cœur de la ville, puisque les faubourgs désormais outrepassent largement Paris, est comme une sorte de temple ancien, enfin quelque chose d'énorme comme ça qui coupe la ville en deux, qui est d'ailleurs une porte qui n'est bon au fond qu'à surveiller les gens, les emprisonner ou les empêcher de passer.
Enfin, il n'y avait que 7 prisonniers.
Oui, absolument. Mais ça n'était pas pour libérer les prisonniers que la Bastille a été prise.
Mais au fond, vous êtes un peu comme Necker, vous l'auriez bien rasé, parce qu'il trouvait que c'était pas économique, la Bastille. 7 prisonniers, tout un appareil d'État autour de ces 7 bons hommes, c'est excessif.
Voilà, malheureusement. Ce serait un cas où l'efficacité et la liberté se rencontreraient.
On pénètre par la porte qui donne sur le faubourg Saint-Antoine dans la cour des casernes. On cherche comment atteindre les chemins de ronde, comment abaisser le pont-levis. Et des négociateurs sont là aussi, Thuriot. Alors, Michelet, que je citais, a construit, dites-vous, son dispositif du récit du 14 juillet autour de la description des parlementaires. Et vous mettez en cause le malheureux Michelet parce qu'il fait occuper trop de place à cette affaire. La négociation, c'est une maladie, expliquez-vous.
C'est-à-dire que Michelet, enfin le passage est absolument sublime, littérairement tout ça est très beau. C'est d'ailleurs la première lecture que j'ai pu faire jeune adolescent concernant le 14 juillet. C'était même un passage que je lisais et relisais à des camarades le soir lorsqu'on était étudiant pour les convaincre qu'il y avait là quelque chose à puiser ou à faire. Mais en dépit du fait d'ailleurs que politiquement le fait que Michelet écrit ceci à l'époque était la sienne pendant la monarchie de juillet, c'est-à-dire un projet républicain au fond qui est, je crois, au cœur de sa description du 14 juillet, me paraît très légitime. Mais aujourd'hui, quand on se penche sur les sources et qu'on étudie de plus près son 14 juillet, il me semble qu'il nous pose problème, puisque sa mise en scène consiste à faire de Thuriot une incarnation de la Révolution. Il nous dit qu'il entre là comme un dogue dans la Bastille, ce qui est très au-delà, je crois, de la personnalité de Thuriot de la Rosière. Et puis de surcroît, au fond, il assied cette description sur une toute petite relation que Thuriot nous a laissée, mais l'autre témoin de ce moment, à savoir Delaunay étant mort, c'est une source tout de même assez contestable. Et puis sa mise en scène, pour finir, consiste à placer Thuriot à la fin du passage sublime, au sommet d'une tour, pour vérifier que les canons ont bien été retirés des embrasures. Et là, il y a un petit dialogue entre lui et Delaunay, très beau, une sorte de pièce de théâtre. Et Michelet nous écrit que la foule arrivait à ce moment-là des faubourgs, et qu'apercevant Thuriot, en somme, elle pousse une immense clameur. Cette clameur, c'est plus tard ce qu'on appellera le suffrage universel. C'est un montage tout de même curieux, au sommet de la tour, Thuriot de la Rosière, le député qui lui a la parole, et tout en bas la foule amorphe, aphasique, au fond, qui n'est bonne qu'à pousser une immense clameur.
Oui, la représentation, ça peut être une maladie. Enfin, je ne vais pas vous pousser trop loin, Éric Vuillard, sur ce terrain. Delaunay, vous citez le nom du gouverneur. Alors, on a dit qu'il avait perdu la tête avant qu'on la lui coupe. Bon, il était marqué par l'irrésolution, l'excès, quand il a vu le pont-levis s'abaissait dans un fracas de chaînes. Il a pensé à tous les moyens les plus extrêmes et même à se suicider avec sa canne épée à pommeau d'or.
mais on va se saisir de lui, lui faire subir les derniers outrages. Et voici maintenant le récit du défilé des têtes coupées, parce qu'il n'y a pas eu que Delaunay seul, le long des rues de Paris, en haut de piques ou de fourches. Ça, c'est de la radio plus ancienne. Souvent, c'est la meilleure. 1960, une réalisation d'Alain Truta.
Moi qui étais sous, je dis « Pas vrai !» Je reste là, je regarde, bouche bée, comme un abruti. Tout à coup, ma pauvre chère dame, je me sens soulevé de terre. Mon œil plonge dans le fossé. Dieu que c'était profond. Toute la place ne faisait qu'un cri « Bravo, bravo !» Et me voilà, moi, sur un brancard, comme un reliquaire dans la rue, avec toujours des cris « Bravo, bravo !» Arrivé dans la rue de la Tissandrie, qu'est-ce que je vois ? La tête de Monsieur Delaunay sur une pique, qui me regarde. Je dis « Je veux descendre !» Mais on crie encore plus fort que moi « Bravo, bravo !» C'est un coup à ne plus se saouler.
Ça a plus de ragoût, je trouve, que la réalisation radio précédente, plus récente.
En effet.
Ça ressemble davantage à du Vuillard, encore que vous vous intéressez pas beaucoup à ce malheureux Delaunay.
Non, il faut dire qu'on s'y est beaucoup intéressé.
Il est trop documenté.
C'est-à-dire qu'au fond, on a tout de même, ça rejoint votre question sur la négociation, c'est-à-dire les différentes ambassades qui sont venues à la Bastille ne souhaitaient pas du tout que la Bastille tombe. Elles souhaitaient y introduire une milice bourgeoise. Mais pendant ce temps-là, il y a eu 98 morts du côté des émeutiers. Si bien que lorsqu'on se contente, au fond, de citer ce nombre de 98 et que l'on raconte parce que, précisément, c'est très bien documenté, il y a eu des procès-verbaux, la mort de Delaunay ou celle de Flessel, je crois qu'on crée un déséquilibre puisque Delaunay est tout de même responsable de ces 98 morts, sur lesquels on a peu de sources, mais on en a tout de même.
Oui, tout de même. C'est bien que s'il y ait de la documentation, parce qu'on apprend que la tête, le soir, est déposée sur une grille et qu'elle est reprise le lendemain, et puis qu'elle va tomber dans le ruisseau constellé de mouches, parce que faut peut-être quand même se poser des questions sur le processus révolutionnaire. Je vous ai réservé une estocade sous forme de compliment d'un excellent écrivain doté d'un solide capital politique et qui écrit ceci dans un mail à propos de votre 14 juillet chez Actes Sud. C'est relativement court et admirablement écrit, rien que pour ça il faut le lire. Après cette lecture, j'ai dévoré le livre avec ma femme, une réflexion tout de même en forme de sentence. Une révolution, c'est forcément magnifique, l'enthousiasme, tout ça, comme tout orgasme. Et alors, ce correspondant continue dans le registre sexuel, c'est qu'un programme révolutionnaire, c'est ça mon mais, c'est comme une perversion.
Je ne sais pas si c'est comme une perversion, en tout cas, je crois que ce qui se passe avec un processus révolutionnaire, c'est que les choses s'inventent au fur et à mesure, donc les gens tâtonnent, puisque par définition, une révolution coupe l'histoire et la continuité historique. Et puis surtout, dans le cadre d'une révolution, tout un personnel, un peuple neuf apparaît et qui participe. Si bien que, au fond, je crois qu'il n'y a pas de programme pour une révolution. C'est un processus qui dure plus ou moins longtemps et qui ensuite se fige ou est trahi d'une certaine manière. La Révolution française a duré 5 ans et on peut dire que pendant ce temps, il s'est passé beaucoup de choses très diverses.
Le coup de l'âne, maintenant, ça va être une sentence de Chateaubriand. Parce que Chateaubriand, dans les mémoires d'outre-tombe, on s'attend pas à ce que vous le citiez dans votre 14 juillet. Il est du côté des spectateurs dégoûtés et fait une description terrible des violences du 14 juillet. Mais nourri par l'expérience, il est quand même très avancé dans sa vie politique. Voici ce qu'il écrit et qui ressemble étrangement à ce que vous venez de dire.
La vieille France était venue là pour finir, la nouvelle pour commencer. Tout événement, si misérable ou si odieux qu'il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu'il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté. Ce qu'il fallait voir dans la prise de la Bastille, et ce qu'on ne vit pas alors, c'était non l'acte violent de l'émancipation d'un peuple, mais l'émancipation même, résultat de cet acte. La colère brutale faisait des ruines, et sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait parmi ces ruines les fondements du nouvel édifice. Mais la nation qui se trompa sur la grandeur du fait matériel ne se trompa pas sur la grandeur du fait moral. La Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude. Elle lui semblait élevée à l'entrée de Paris, en face des 16 piliers de Montfaucon comme le gibet de sa liberté. En rasant une forteresse d'État, le peuple crut briser le joug militaire et prit l'engagement tacite de remplacer l'armée qu'il licenciait. On sait quel prodige enfanta le peuple devenu soldat.
C'est quand même assez extraordinaire. Vous auriez pu lire ça à vos copains étudiants dans votre chambre de bohème quand vous étiez tout jeune, Éric Vuillard.
J'aime beaucoup les mémoires d'Autotombe, je l'ai peut-être fait. Mais il se trouve que ce qu'il y a de particulier avec Chateaubriand, enfin, c'est je crois deux choses. Tout d'abord, Chateaubriand hérite d'une langue qui a été fabriquée pendant la Révolution française. C'est-à-dire que, alors qu'il a des opinions réactionnaires, il parle la langue de la Révolution. C'est ceci, au fond, le romantisme. Mais par ailleurs, en plus, je crois, là, il y a quelque chose dans ce passage d'assez hegélien, l'émancipation même. Donc, dans le même temps, au fond, qu'il parle la langue de la Révolution, il en saisit quelque chose. Il saisit notamment le changement de régime de vérité.
Comme quoi, on peut ne pas avoir de croyances révolutionnaires et croire que la Révolution, c'est un réel qui a des effets.
Oui, bien sûr, évidemment. Oui, je crois que, de toute façon, il faudrait être aveugle pour ne pas l'avoir constatée. Elle a eu un retentissement aussitôt universel.
La marche de l'histoire a été réalisée par Valérie Aestaraille avec Clément Juillet à la technique. L'équipe Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard et le livre d'Éric Vuillard, 14 juillet, prix Alexandre Vialat, 2017, est publié chez Actes Sud. Actes Sud qui a publié depuis L'Ordre du Jour. Lundi, après la série 18e siècle, une série dans nos rediffusions d'été, Les Villages.